France Musique. Sous les doigts d'Horowitz. Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado.
Bonjour à tous, sous les doigts d'Horowitz, sixième épisode. Et nous voilà à nouveau sur un paquebot qui fait cap sur la Statue de la Liberté. Lors de nos cinq premières émissions, je vous racontais à quel point New York avait été pour Horowitz la ville du succès. L'arrivée de toute la tribu Toscanini-Horowitz en 39, fuyant l'Europe en guerre, est cette fois infiniment triste.
Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur.
La démesure de son succès, il n'a pas joué à New York depuis 1936, ne console pas Vladimir. Le 31 janvier 40, lors de son premier récital à New York, il est tellement applaudi qu'il doit s'y prendre à deux fois avant de s'asseoir au piano. Mendelssohn, Schumann, Chopin, Debussy et ses variations Carmen révisées en 37. De quoi ébaubir le public qui ne demande que cela. Toute la famille s'installe à Riverdale, ville de banlieue ultra chic au nord de New York. Les Toscanini emménagent dans la fameuse Villa Pauline et les Horowitz un peu plus loin à Filson. Il leur suffit de prendre l'allée des palissades qui bordent les manoirs victoriens pour se rejoindre en 10 minutes. La Villa Pauline est un perpétuel ouragan. « Je déteste cet endroit dément », disait Vladimir. Il a pris l'habitude de se mettre dans un coin, bien silencieux, pendant que la famille italienne hurle à travers la maison pour savoir à quelle heure le chauffeur doit venir les chercher. Chacun est survolté autour du patriarche Toscanini, qui à 73 ans déploie une énergie folle. De star de la baguette, il fait maintenant figure de grand humaniste.
Good afternoon, ladies and gentlemen. This day is one that may well occupy an historic place in the musical annals of the American radio. Gathered on the great stage of the National Broadcasting Company Studio 8H in Radio City, before a distinguished audience is the NBC Symphony Orchestra, augmented to the number of 110 musicians. Under the direction of the world-renowned maestro Arturo Toscanini, they are about to bring to radio listeners throughout the Americas and by shortwave to the rest of the world, the long-awaited Western Hemisphere premiere of the 7th or Leningrad Symphony, by the brilliant young Russian composer Dmitri Shostakovich.
Perdu, encore fragile. N'oublions pas que Volodia se remet tout juste à jouer après presque 3 ans de silence. Et comme cela ne suffit pas au vacarme environnant, une campagne de presse lui met une pression terrible. Il serait un nouveau Vladimir Horowitz. Il a passé 30 ans, il a mûri, il est simple et sans affectation. Il n'est plus celui qui mettait des cravates voyantes et collectionnait des voitures. Il est père de famille et responsable. Il a même une passion pour les livres et a commencé une collection d'œuvres d'art et de tabatières anciennes. C'est dire s'il s'est assagi. En réalité, la seule personne insouciante, semble être la fille de Vanda et Vladimir. Sonia a 6 ans en 40 et elle est adorée de son grand-père. Une merveilleuse série de photos les montre en train de jouer à cache-cache dans le parc. À ce propos, une petite anecdote illustre à quel point toute la famille vit en osmose. Sonia veut prendre des cours de piano. Un étudiant est requis comme professeur. Lorsqu'il entre dans la pièce, il se retrouve devant Toscanini et Horowitz. Effaré, le jeune homme leur demande si par hasard ils ont l'intention de rester. Vladimir répond un sourire en coin. « Oui, je suis le père et lui le grand-père et nous restons tous les deux. » Faut-il préciser que Sonia a rapidement laissé tomber le piano ? Le père et le grand-père, un duo fantastique. Les premiers temps à New York sont marqués par leur concert radiodiffusé de Carnegie Hall au profit du fonds du Greater New York Fund, le deuxième concerto de Brahms. L'enregistrement, qui n'est pas la version du directeur radio, a eu un énorme succès. Les journalistes se demandent bien comment les deux génies travaillent à la maison.
Faisiez-vous des soirées musicales?
Oh là là.
Au piano?
Oui.
Avec des partitions d'orchestre?
Oui, dans le but de répéter. C'était une personne extraordinaire.
Ressentiez-vous les mêmes sentiments sur des œuvres comme le premier concerto Tchaïkovski et le deuxième de Brahms?
Oui, mais c'était il y a longtemps, en 41. Mais j'ai joué ce concerto avec Bruno Walter. Et on l'a joué de manière complètement différente. Vous savez, l'orchestre a une partie énorme. Et vous vous adaptez. Toscanini avait sa conception. Et vous le suiviez. Parce qu'on joue ensemble quand même. Parfois il changeait, même si ça allait contre vos souhaits.
Et quelle était la différence entre Walter et Toscanini?
C'est difficile à dire. Il n'y en a pas une de bonne, l'autre mauvaise, vous voyez. Je ne saurais dire, je ne sais pas.
Ça a été deux performances magiques.
Les deux étaient belles. Vraiment pas une bonne et une mauvaise. Bruno Walter était plus libre, plus schumannien, plus romantique, vous voyez. C'était plus classique, plus précis, plus dynamique. La version Toscanini avait plus de puissance, et celle de Bruno Walter était plus proche de Chopin.
Malheureusement, si Vladimir Horowitz a bien enregistré ce concerto avec Bruno Walter, il n'est jamais sorti. et se trouverait dans les archives Horowitz à l'université de Yale. Nous ne pourrons donc pas faire de comparaison, mais il est clair que Vladimir éprouve une véritable complicité musicale et une grande amitié pour Bruno Walter. Vladimir tourne aux États-Unis. 1941, nouvelle tournée. Et le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent Pearl Harbor. Pendant qu'encore une fois, Vladimir est entre deux trains, entre deux concerts. Il joue toujours plus, toujours plus vite. C'est toujours Hudson qui s'occupe de ses tournées, mais Vladimir, question autorité, a été à bonne école avec son beau-père. Il ose enfin exiger de pouvoir arriver la veille dans chaque nouvelle ville et de ne repartir que le lendemain.
Ils ont exploité le fait que je joue beaucoup trop. Je leur ai dit pendant 10 ans, parce que je vivais 8 mois par an dans les trains. Vous savez, il n'y avait pas d'avion dans les années 30 et 40. Je voyageais pour donner 4 ou 5 concerts par semaine, et malgré toute l'énergie que j'avais, j'étais épuisé. C'était juste physiquement impossible. Et j'ai dit, ça suffit.
De même, il impose un programme qui reflète résolument son idéal romantique. « Parce que je crois qu'on a terriblement besoin de choses romantiques », affirme-t-il en ces années de guerre, même s'il hésite à donner plus souvent les sonates de Beethoven. Les sonates de Beethoven m'ont beaucoup attiré, bien que j'essaie rarement de les jouer en public, car la pensée musicale qu'elles recèlent, en partie à cause de la mauvaise écriture pianistique de Beethoven, reste inaccessible à la plupart des auditeurs. Autrement dit, Vladimir, toujours aussi provocant, reste extrêmement défiant de son public américain. Il ne veut pour rien au monde qu'il s'ennuie. Il faut dire que ce public n'est pas facile à comprendre. Ce que je voyais au premier rang était parfois terrible et pouvait gâcher tout un concert. Il y avait une fois une femme qui secouait la tête à tout ce que je faisais, une vieille dame. Tout ce que je faisais, elle le désapprouvait. Après le concert, elle est venue dans les coulisses et alors j'ai vu que c'était un tic nerveux. Le public n'est pas des plus délicats. À Milwaukee, il y avait un homme d'environ 150 kilos, vautré en arrière sur son fauteuil, avec ses jambes allongées, en train de se curer le nez. J'allais attaquer avec Beethoven et ça m'a mise en colère. Alors je me suis assis sur la banquette, avec les jambes écartées, et je l'ai dévisagé droit dans les yeux. Personne ne comprenait ce qui se passait. Il est devenu rouge, ça ne me gênait pas. La vraie nouveauté, c'est qu'il ose enfin jouer Schubert en public, alors qu'avant, il ne se risquait pas plus loin que les valses et les transcriptions de Lieder. Et puis quoi ? Schubert non plus n'est pas un compositeur parfait. Et ce n'est pas Vladimir le fautif. Il n'a jamais compris ce que les critiques lui ont reproché.
C'était pas si mal. Quand ils font la remarque que je ne suis pas un grand Schubertien, je ne sais pas quelle philosophie ils ont à propos de Schubert. Mais le pauvre Schubert, dans sa vie, pouvez-vous imaginer qu'il n'avait même pas un piano dans son appartement ? Il fallait qu'il aille ailleurs. Il ne connaissait pas l'instrument. Schubert, c'est une très belle musique parce que c'est un auteur de chant. Il chante. Il n'est que chant. Je pense qu'il est meilleur dans les petites formes que dans les grandes. Même sa symphonie en do majeur a des lacunes. Dans le dernier mouvement, le martèlement.
C'est un petit bourgeois, you know.
Alors, qui trouve grâce à ses oreilles ? Bien évidemment, il donne toujours Chopin et surtout Schumann.
Je l'aime. Parce que vous voyez, pour moi, Schumann est un romantique. Il y a deux romantiques, Chopin et Schumann, pour le piano, j'entends. Schumann est plus éclectique, parce qu'il a fait des symphonies, des trios, des quatuors, des quintettes. Chopin n'a pas fait ça. Mais Schumann va directement à la musique. Et il reste toujours très idiomatique. Chopin, il utilise trop souvent l'ornementation. La même mélodie la répète avec différents ornements tout le temps. Et c'est un peu fatigant. Quand il fait ça dans ses mazurkas et parfois dans ses préludes, ce genre d'œuvre, ah là c'est terrible.
Et Schumann n'employe pas d'ornementation.
Il est toujours créatif, avec à chaque fois quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me touche terriblement.
Depuis qu'il est arrivé à New York, il y a du nouveau dans la vie de Vladimir. En mai 40, il s'est pris la main dans une porte. Le New York Herald Tribune annonce un doigt blessé, trois médecins consultés, encore une fois des concerts annulés, et une nouvelle rumeur de dépression se répand, peut-être. Néanmoins, Vladimir s'est mis au calme et prépare une série de 32 concerts prévus pour l'hiver et le printemps.
Look at this. That's not much good there.
I'll take the plunge.
Well, put your socks up. Now, come on. Come on.
Give it a good brush.
It won't hurt me.
No, damn it. Do it on. I haven't got time to mess about.
Would you turn around?
Cette fois, il lui faut un accompagnateur, parce que Vanda est trop prise par Sonia. Elle passe une annonce à la page Jean de Maison. Lowell Bénédicte est étudiant. Il a 21 ans. C'est une certaine Madame Martini qui a répondu à son CV et l'a invité à un entretien dans les salons d'un hôtel. Elle le reçoit seul et lui affirme que c'est un travail de vraie responsabilité. Il sait à peine qui est Vladimir Horowitz, mais il plaît à Vanda. Il a promis de la prévenir de l'état de santé de son mari et de son humeur. Volodia laisse faire. En janvier, ils partent ensemble. Bénédicte est éblouie. Je trouvais que la vie d'un virtuose en tournée était la plus fascinante du monde. Et c'était l'âge d'or des trains. Les compartiments, les salons étaient extrêmement beaux et confortables. « rapidement, Lowell Bénédict comprend que la tâche ne sera pas simple. Grâce à son récit, on découvre un pianiste qui ne ressemble en rien au portrait de génie raisonnable qu'en fait la presse depuis son mariage. Il était extrêmement tendu durant ses tournées de concert, et jouer en public était quelque chose pour lui de traumatisant, qui exigeait un énorme effort de sa part. Voyager et jouer en public était pour lui bien assez à supporter. Pendant ses mois de tournée, il ne faisait absolument rien d'autre. Au début, il avait un clavier silencieux pour exercer ses doigts. Il a arrêté, et en dehors d'aller voir la salle et le piano, il ne s'exerçait pas du tout. Il travaillait son programme l'été et pour lui, ça suffisait, puisque partout où il allait, il jouait la même chose. Comme je faisais ses valises, je peux vous dire qu'il n'emportait même pas de partition avec lui. Ses bagages étaient pleins de médicaments dont il n'avait en réalité pas besoin. Le soir du concert, il était nerveux, tendu, en nage. J'essayais par tous les moyens à ma portée de le détendre, de le rasséréner, mais il était comme un homme qui va se jeter dans les rapides. Il faisait son entrée en scène en grinçant des dents. Il haïssait les réceptions d'après-concert et n'avait qu'un souhait, rentrer dormir. Il voulait se taire, il refusait de s'exprimer sur tout ce qui se passait en Europe.
Mes amis qui souffrent jour et nuit, sous le joug accablant des nazis, je vous parle comme celui qui en 1918 était en France, avec votre armée et avec votre marine.
Vladimir Horowitz va jouer dans les bases militaires. Il donne, avec Toscanini, le concerto de Tchaïkovski pour un concert d'obligation de guerre, dont les places s'obtenaient en souscrivant à des bons obligatoires de la défense nationale américaine qui pouvaient atteindre jusqu'à 50 000 dollars pour une place en loge. C'est qu'en janvier 42, l'année où Roosevelt s'adresse aux Français, Vladimir Horowitz obtient ses papiers. Il est américain. Du coup, il attaque chaque concert par un arrangement de l'hymne américain. Lowell Bénédict se souvient que, dès qu'Horowitz parlait de Hudson, il devenait hystérique. Il trouvait que les gens de la Columbia étaient uniquement des gens d'affaires, des capitalistes vénaux qui n'avaient pas de considération pour un artiste de son envergure. Des premières saisons de ces années 40, épaulé par Vanda, il bataille pour obtenir de meilleures conditions financières. Mais ce n'est pas cela qui va lui apporter la sérénité. En fait, plus Vladimir se lasse de jouer, plus grandit sa peur de lasser son public. Alors, il fait de la surenchère, des feux d'artifice de virtuosité. Pour cela, il a ajouté une corde à son arc. En 42, il se remet à composer des transcriptions qu'il donne en bis après ses programmes romantiques. Petit à petit, elles sont devenues sa marque de fabrique. Un piège qu'il s'est tendu à lui-même. On pourrait imaginer qu'elles sont un jeu récréatif et créatif, certainement, en un sens, mais pas seulement. Elles ont toutes en commun d'être acrobatiques à tel point qu'elles dépassent le morceau de bravoure. Elles sont des pieds de nez à tous les autres pianistes. En fait, Horowitz écrit des œuvres que seul Horowitz peut jouer. Thank you. Sa démarche est mal perçue. Les journalistes l'accusent de paraphraser les œuvres, de produire de purs produits marketing. En résumé, ses pièces courtes et flamboyantes sont écrites pour faire des tubes. Horowitz, alors inconscient de sa dérive, se plaint alors de n'être plus pris au sérieux. Après ce genre de morceau, le public oublie tout le concert. Ce n'est pas juste.
Je ne veux pas être autre chose que moi-même. Mais psychologiquement, c'est un truc marrant. Vous jouez pendant 2 heures, mais ils n'attendent que 3 minutes. Et ils ne se souviennent que de ces 3 minutes en oubliant les 2 heures.
Quand vous prenez par exemple la 9e symphonie, quand vous prenez le premier et même le 3e mouvement, vous avez tous ces gens qui restent exactement collés au texte. Ils sont très intellectuels. Vous ne pouvez pas changer une seule note. Si vous bousculez une note, vous commettez un crime. Certains l'ont réorchestré et personne ne l'a entendu. Qui a fait ça? D'abord Mahler et deuxièmement Toscanini lui-même. Mais au piano, si vous en changez une, tout le monde l'entend. Et pourtant, on devrait pouvoir le faire. Si Beethoven était vivant, il n'entendrait pas grand-chose. Il ne changerait pas sa musique, mais il ferait en sorte que ça sonne. Il faut faire quelque chose pour l'orchestre, et ils l'ont fait. On dit « Oh, c'est un bon chef !» Parce que les gens ne peuvent pas entendre quand 100 musiciens jouent, même s'ils changent quelque chose. Mais au piano, vous entendez tous les doigts. Et c'est ce que j'ai fait pour Moussorgski.
Évidemment, il faut du courage parce que les pianistes sont beaucoup plus exposés à la critique sur des questions de tempo par l'establishment.
Oh, ils m'ont envoyé des critiques virulentes, que j'avais mis des graffitis sur la musique de Moussorgski, des choses comme ça.
En 1946, Vladimir propose sa propre transcription des tableaux d'une exposition, la transcription d'un pianiste.
Le piano doit sonner de façon idiomatique, et quand vous avez des transcriptions comme celle-là, c'est un peu dilettante, parce qu'il n'était pas pianiste. Il a été un grand inventeur de nouvelles harmonies, dans une nouvelle direction qui a influencé la musique impressionniste, comme vous le savez. Donc j'ai décidé d'amener l'œuvre vers l'extérieur, et pas une introversion. Parce que c'est un peu trop introverti et pas assez extraverti. Donc j'ai doublé les choses, j'ai réorchestré, mais je n'ai pas vraiment changé la musique. J'ai juste changé le son. Et je suis très fier de cette transcription. J'ai fait du bon boulot là. Et je la joue bien. Vous savez, le piano est vraiment, vraiment un drôle d'instrument. Thank you.
Emmanuel Franc, sous les doigts d'Horowitz, France Musique.
Mais ces années 40, la critique ne reprochait pas seulement à Vladimir ses transcriptions. Certains journalistes lancent une cabale contre sa virtuosité. Les Européens lui en avaient fait le reproche, mais jusque-là, les Américains s'en étaient bien gardés. En 1942, le très célèbre compositeur et critique Virgil Thomson écrit un article titré « Vladimir Horowitz, maître de la déformation et de l'exagération ». Si quelqu'un n'avait jamais entendu les œuvres jouées par M. Horowitz hier soir ou connu d'autres œuvres de ceux qui les avaient composées, il aurait pu se persuader sans peine que Jean-Sébastien Bach était un musicien du genre de Léopold Stokowski, que Brahms était une sorte de Gershwin désinvolte qui aurait surtout travaillé dans un nightclub de grand luxe et que Chopin était un violoniste tzigane. M. Horowitz fait ce qu'il peut pour séduire le public. Et pour ce qui est de le séduire, il y arrive. Il fait un accent ou un phrasé faux partout là où il pense que cela va attirer l'attention. Réponse de Vladimir après une grosse colère. Virgil Thomson a dit que j'étais un maître de la distorsion et je l'ai pris comme un compliment, après tout. C'est ce qu'étaient le Gréco et Michel-Ange. Thomson est la bête noire de Vanda. Un soir, elle le surprend en train de dormir à une représentation de Falstaff dirigée par son père. À la fin, elle se plante devant lui. « Je suis Vanda Toscanini-Horowitz et je vous ai vu dormir de la première à la dernière note. » Elle lui donne une petite tape avec son programme et ajoute « J'espère que vous avez apprécié la représentation. » Heureusement, un autre critique célèbre, Harold Schoenberg, au New York Times, écrit « En tant que technicien, Horowitz a été l'un des plus honnêtes de l'histoire du pianisme moderne. Il a obtenu ses effets éblouissants uniquement avec les doigts, en utilisant la pédale avec parcimonie. Peu importe la difficulté et la complexité de la pièce, Horowitz lui donne toujours l'air facile. » Volodia confirme que son jeu rapide n'est qu'une illusion.
Vous savez, il y a un secret dans les trilles. Plus vite vous jouez les notes, moins vous les entendez. Si vous jouez de façon uniforme et que vous jouez un peu plus lentement, eh bien ça donne l'impression que vous jouez vite. Si vous faites ça, vous n'entendez pas. C'est une mécanique terrifiante. Mais si vous faites... Ah mon Dieu, vous voyez comme on entend toutes les notes.
Thank you.
Et Vladimir de se justifier inlassablement. Sa vitesse d'exécution n'a rien à voir avec l'expressivité. Quand je suis assis au clavier, je ne sais jamais comment je vais jouer quelque chose. Je joue ce que je ressens à ce moment-là. Ce qui me guide, ce sont mes sentiments. Chopin n'a jamais joué ses propres pièces de la même manière deux fois. Vérifions. Nous venons d'écouter une version de la Polonaise numéro 6 de Chopin d'avril 79. Voyons maintenant une version de mai 83. Reproche aux critiques de confondre vitesse et mécanique.
Vous savez, après tout, le jeu au piano, c'est trois ingrédients. L'esprit, l'émotion et les moyens. Les moyens, je veux dire la technique. La mécanique des arpèges, des gammes, et même si vous entendez chaque note, ça reste de la mécanique. Mais la technique, il y a un mot français, le savoir-faire. Comme Chopin dit dans une lettre, j'ai un index complètement sous-développé, mais je sais comment l'utiliser et personne n'entend. Ça, c'est la technique. Vous devez connaître la technique, c'est ça le savoir-faire. Savoir comment utiliser votre mécanique.
En fait, Horowitz prend d'énormes risques à chaque concert. La preuve, sa transcription de la Rhapsodie hongroise numéro 15 de Liszt reste un exercice aussi émotionnel que périlleux. Il assume totalement ses fausses notes, comme la preuve que la virtuosité n'est pas son but premier. N'aurait jamais été son but premier. Mais alors pourquoi en a-t-il abusé? Au fond, Vladimir reconnaît qu'il s'est fourvoyé. C'est pendant les années 40 que j'ai commencé à rapetisser, avoue-t-il, intellectuellement et comme artiste. Mon pianisme était devenu trop brillant. Je jouais tout trop vite, et même mes propres transcriptions. Il s'arrêtera en 53, dégoûté. Bien plus tard, il fera même un vrai mea culpa. Je ne comprendrai jamais comment j'ai pu me laisser aller à m'écarter autant de la destination que je m'étais fixée dans ma jeunesse, car j'aurais préféré fuir, j'aurais préféré n'importe quoi d'autre, ou rien, plutôt que de continuer à être une sorte de battleur en vedette. Je n'ai jamais voulu être un surhomme du piano.
Est-ce que tout est prêt ? Oui, oui. La lumière aussi,
c'est prêt.
Lumière! Attention, moteur, passez!
Revenons à la vie de famille. les Horowitz ont pris l'habitude de passer l'été à Beverly Hills. Ils louent une maison dans le quartier qui réunit le plus de stars et de réfugiés européens au kilomètre carré. Le jeune secrétaire, Lowell Benedict, décrit ses vacances. Vladimir Horowitz dort jusqu'à 11h, lit la presse, puis lui indique à lui ou à Wanda comment répondre à ses admirateurs. Il petit déjeune et se met au piano pendant une heure ou deux, pas plus. Il reste en pyjama toute la journée, mais le soir, il sort ou il reçoit.
Ernest Hemingway, soldier of fortune, who can always be found where adventure beckons, now takes you to the danger zone of the mid-Atlantic.
Il a pu rencontrer Hollander, Waxman, Eisler, Korngold. Je ne sais pas si Horowitz a fait partie du cercle d'Alma Mahler, qui recevait Schoenberg, Mann, Stravinsky. En revanche, une photo prouve qu'il assistait aux fameuses réceptions de George Cukor, un autre voisin. Cukor, lui-même juif hongrois émigré, est discrètement gay. Les studios y veillent. C'est un bon vivant. Il aime le glamour. Et ses réceptions, chaque dimanche après-midi à sa villa, étaient très courues. Y étaient invités des célébrités. Greta Garbo, Vivian Leigh, Tallulah Bankhead et ses amis de longue date, Catherine Hepburn, Spencer Tracy. Ainsi que quelques jeunes hommes, attirants, qu'il rencontrait dans les gymnases et les bars. Après le départ des invités vedettes, Cukor garde un petit cénacle masculin et l'après-midi se termine joyeusement et sensuellement. Ainsi, sur une photo, on voit Volodia, aux côtés de Cukor et quelques convives, le bras autour des épaules d'un jeune et beau blond.
Never before has my heart felt a thrill like this. Never before, never before, never before has the whole world stood still like this as I gaze at the face I simply adore.
En apprenant cela, Wanda a-t-elle surpassé Hepburn et Tracy, qui pourtant en connaissaient un rayon en termes de scène de ménage?
What you want your rub down? You want a drink? Want anything? What? Oh! Oh!
Si tout cela tourne à la comédie, Beverly Hills est aussi un lieu teinté de mélancolie. Vladimir y retrouve son cher Sergueï Rachmaninov, qui a achevé son 4e concerto, lequel est resté incompris du public. Le compositeur est parfaitement conscient que de nombreux musiciens méprisent sa musique. En 1942, tous deux, chacun de son côté, jouent au Hollywood Bowl. Quand c'est au tour de Vladimir, Rachmaninov se met au dernier rang, mais accepte de le rejoindre sur la scène à la fin de son 3e concerto. Il prend la main de Volodia et dit « Voilà comment j'ai toujours rêvé qu'on joue mon concerto, mais je ne m'attendais pas à l'entendre de cette façon, du moins sur cette terre. Ça a été le plus grand moment de ma vie », affirme Vladimir.
Thank you.
Ces années-là, Rachmaninov s'efforce d'achever ce qui sera sa dernière œuvre, les danses symphoniques, dont il écrit deux versions, l'une orchestrale qui est dédiée à Eugène Ormandy, l'autre pour deux pianos, dédiée, elle, à Vladimir Horowitz. Rachmaninov est le blues. Eugène Istomine raconte « Il avait besoin de gagner de l'argent. Il lui fallait travailler son piano et donner des concerts, même s'il aurait aimé passer plus de temps à composer. » Pour se consoler, Rachmaninov s'est reconstitué une bulle russe sous les palmiers de L.A. Le chauffeur et les domestiques sont russes. La nourriture est russe, on parle russe. Et Volodya a le bonheur d'entendre à nouveau un samovar siffler et cracher. On voit le compositeur dans un petit film merveilleux, même si le son est à peine audible, les images, elles, sont précieuses. Dans son jardin, le grand et maigre Rachmaninov, tout vêtu de blanc, chante et danse avec ses petits-enfants. Il prend le thé allongé sur une méridienne en osier, le service à thé est disposé sur une nappe de lin blanche. À nouveau, les deux musiciens jouent ensemble, s'échauffent avec le clavier bien tempéré, jouant chacun une main, puis ils travaillent ensemble aux danses symphoniques. Nous n'avons aucune trace de leur duo. Alors écoutons deux autres grands pianistes et grands amis, Martha Argerich et Nelson Frère. Que ne donnerions-nous pas pour avoir une trace du duo Horowitz-Rachmaninov ?
Un an avant sa mort, il a composé ses danses symphoniques, il les a transcrites pour deux pianos, ainsi que sa seconde suite. Et nous avons répété, nous avons invité 50 personnes, et on a joué pour eux. Et je sais qu'il voulait qu'on donne des récitals ensemble de ses compositions. On l'a fait une fois, et il est mort. Je ne dis pas ça pour me faire de la publicité, mais parce que c'est la vérité.
La mort de Rachmaninov fait sombrer Volodia dans la mélancolie, les souvenirs, le parfum des musiques de son enfance, et cela s'entend dans ses programmes de 43 et 44. Son nouveau répertoire a la Russie pour horizon. Rachmaninov plus que jamais, mais aussi Metner, Scriabine, Kabalevski, mais il doit bien reconnaître que le public n'est pas prêt à découvrir ses répertoires. Alors, il revient vers le russe qui a du succès, Prokofiev. Les sonates 6, 7 et 8. Vladimir le comprend profondément et dit « Prokofiev n'aurait pu atteindre à cette perfection dans sa musique s'il n'y avait eu en lui l'esprit de la guerre conjugué à l'âme du peuple russe. Il donne un concert mémorable de ses sonates qu'aucun musicien n'a jamais entendu.
J'ai commencé par la sixième avant la guerre, j'étais le premier à la jouer, mais les sept et huit, je les ai jouées au consulat pendant la guerre. Il y avait la quintessence des musiciens. Il y avait en gros 200 personnes au consulat. Au premier rang, il y avait Stokowski, Bruno Walter, Toscanini, un public comme ça, et tous les critiques. Le petit Bernstein était là, il avait 18 ou 19 ans, et Koussevitzky. Pendant le concert, ils étaient tous au premier rang.
C'était un événement.
Et puis il y avait Barber, Copland, tous les compositeurs américains que vous pouvez imaginer.
Prokofiev n'était pas là, bien sûr.
Non.
Plus tard, quand vous avez fait le disque, vous lui avez envoyé un exemplaire.
Et il m'a renvoyé la partition avec une dédicace.
Je sais ce que disait son mot. Au pianiste miraculeux, de la part du compositeur.
Exactement.
Vladimir et Vanda ont décidé de prendre un peu de large avec le clan Toscanini. Ils achètent en 44, à New York, un hôtel particulier, 94e rue, près de la 5e et de Central Park.
Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious?
Premier étage de grande fenêtre, c'est le salon bibliothèque de partition où est exposée la collection de toiles impressionnistes qu'a commencé Vladimir au lendemain de la crise de 29. Pas d'action cotée en bourse, pas d'obligations, serait-il depuis. Vladimir Horowitz soutient qu'il a choisi lui-même chaque œuvre, oubliant de nommer les galeristes avisés qui l'ont conseillé pour acquérir des Degas, Manet, Pissarro, Modigliani, Matisse, Rouault et surtout son fameux Picasso, l'acrobate au repos. C'est là aussi qu'il y a ces deux grands Steinway de concert. Le soir, les invités arrivent à 22h après un spectacle et on bavarde, on joue aux cartes jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Vladimir est affable, drôle, il porte un nœud papillon sous une veste d'intérieur et distrait ses convives au piano. Lorsqu'il ne donne pas de concert ou ne reçoit pas, il sort et va dans les clubs de jazz. Légende et réalité se mêlent dans une bien belle histoire. La rencontre de Vladimir et de Art Tatum. Ce qui est sûr, c'est que de très grands musiciens comme Rachmaninoff, Samson François, Rubinstein, Prévin, Paderewski, Gershwin parlaient de Tatum comme du dieu du piano. Il paraît même qu'un jour, Rubinstein s'est déclaré malade pour ne pas donner un concert. En fait, il se serait rendu en douce à celui d'Art Tatum. La pianiste de jazz Hazel Scott et le clarinettiste Artie Shaw, tous deux appartenant à l'écurie Columbia comme Vladimir, l'auraient emmené un soir au Café Society où Tatum se produisait. Horowitz était dépassé. Après le Tiger Rag, il aurait dit « Cela ne peut pas être vrai. Je ne fais pas confiance à mes yeux et à mes oreilles. » Serait ensuite revenu pendant des mois écouter Tatum improviser et s'est mis à écrire sa propre adaptation de Tifo 2, qu'il est impatient de montrer à Art Tatum. Puis se met au piano et joue sa propre version de la pièce. Stupéfié par l'interprétation du Tatum, Horowitz lui demande où il pourra acheter la partition, ce à quoi Tatum répond « Je viens de l'improviser ». Horowitz a déclaré qu'à partir de ce jour, il n'a plus jamais joué « Tifo 2 » en public et a ajouté « Si Art Tatum prenait la musique classique au sérieux, je quitterais mon métier le lendemain. » Car Tatum, quasiment aveugle de naissance, enfant noir et pauvre, même s'il est né dans une famille de musiciens, jouait aussi bien du Dvorak, du Massenet que du Chopin. Allez, une dernière histoire qui flirte avec le jazz. Oscar Levant, compositeur et pianiste pour Broadway, grand interprète de Gershwin, vedette de scène et de télévision, blagueur invétéré. Il est aussi l'ami d'Horowitz. Comme il était connu pour annuler beaucoup trop de représentations, il suggéra une annonce. Vladimir Horowitz et Oscar Levant, disponibles tous les deux pour un nombre illimité d'annulations. Il a d'ailleurs fait inscrire sur sa tombe l'épigraphe suivante « I told them I was ill ». Je leur avais bien dit que j'étais malade. En fait de blague, il est vrai que Vladimir annule de plus en plus de concerts. Lorsqu'il reçoit sa feuille de route, il y jette un coup d'œil et dit « Et maintenant, quel concert je vais annuler ?»
Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben, je crois que je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes.
Albert.
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes.
Il faut dire que rien ne va plus. Les scènes de ménage avec Vanda deviennent épiques. Vladimir n'est pas forcément le dernier à celui qui hurlera le plus fort. Un de leurs sujets de dispute est leur fille. Vladimir la traite de machuga, de folle. Autre cassure depuis 42. Vladimir écrit à Hudson « Prenez bonne note de ce que je ne fais plus partie de vos artistes car je suis tout à fait mécontent des services de la Columbia Concert Corporation. » Et il choisit Annie Friedberg, une petite agence qui lui laisse le contrôle de ses concerts. Et pour compléter le tableau, Lowell Benedict, fatigué de devoir le pousser sur scène à chaque concert, rend son tablier. Pire, du côté de Riverdale, l'ambiance n'est pas non plus des plus sereines.
The first base. You are always late. You have no ears, no eyes, nothing at all. Look at me and follow me.
Les conversations musicales entre Horowitz et Toscanini s'enveniment de plus en plus souvent quand le maestro affirme que Rachmaninoff n'est pas un bon compositeur et que Liszt n'est qu'un poseur. Or, Liszt est plus que jamais un modèle pour Horowitz.
C'était un grand musicien, il connaissait tout. Il pouvait tout jouer et tout par cœur. C'est un personnage qu'on ne peut même pas comprendre. Et je tiens ça de personnes qui l'ont rencontré, comme Glazunov, qui passait des journées entières avec Liszt.
Que disait Glazunov?
Il passait toute la journée avec lui, et il dit que toutes les paroles qu'il prononçait étaient des aphorismes. Liszt et Paganini sont ceux qui se sont fait le plus d'argent à cette époque. Et cet homme, à l'âge de 42-43 ans, il a quitté la scène, perdu presque tout son argent, et vivait dans la misère, et il a donné des leçons, il a eu des élèves fantastiques, et il ne demandait pas d'argent. Il était toujours dans la misère, et il aidait tous les gens autour de lui. Il a fait ça pour Wagner, pour tout le monde, pour tous les compositeurs. J'en ai parlé avec Toscanini, qui disait que c'était une pose, une posture, que ce n'était pas sincère. Et même si c'était une posture, c'en était une bonne, non? Je m'en fiche de pourquoi, mais il l'a fait.
Emmanuel Franc, sous les doigts d'Horowitz, France Musique. Horowitz s'identifie tant aux listes diaboliques qu'il n'a pu s'empêcher de proposer sa transcription de la célèbre valse, la première du cycle Méphisto.
D'abord, il faut que vous sachiez que je n'ai jamais été satisfait de la transcription de Liszt. D'abord parce qu'il a écrit ça pour orchestre. Et naturellement, sa version pour piano n'est pas très bonne. Et donc, M. Busoni a aussi fait une transcription d'après l'œuvre orchestrale. Et certaines parties sont meilleures que celles de Liszt. Certaines autres sont un peu enfantines, pas si bonnes que ça. Donc j'ai décidé de mélanger ce qu'il y avait de meilleur dans les deux. Et je l'ai fait. Et je crois que c'est un bon travail.
Dans le genre « Les doigts en folie », en 1945, Vladimir transcrit encore la marche patriotique « Star and Stripes Forever » qu'il donne, pour la première fois, à Central Park pour l'American Day. 100 000 personnes sont venues fêter la fin de la guerre. To celebrate I Am an American Day. The demonstration is part of nationwide ceremonies held each year to welcome new citizens of the United States. Je pense être plus américain que n'importe qui. Vous pouvez oublier mes origines russes et ma carrière européenne si vous voulez. Appelez-moi simplement Vladimir Horowitz, le pianiste américain. En 1946, il signe un contrat d'exclusivité avec RCA qui stipule que chaque enregistrement doit avoir son aval écrit, que le nombre de disques mis en vente doit être le plus élevé ou égal aux autres de tout autre artiste RCA, qu'il soit toujours nommé en premier dans la promotion RCA, que son nom soit toujours plus gros ou égal au moins que les autres, que personne ne puisse jouer la rêverie de Schumann, scène d'enfant, qu'il s'approprie puisque c'est son œuvre fétiche. Le tout contre espèces sonnantes et trébuchantes. On imagine Vanda lisant et relisant chaque clause. Horowitz devait enregistrer ce qu'il jouait en récital et puis une œuvre contemporaine américaine. Vladimir n'a cessé de clamer « J'aimerais mettre la main sur une grande œuvre pour piano écrite par un compositeur américain. » Ils n'écrivent pas beaucoup pour le piano, ou pas très bien pour le piano. Ils ne veulent composer que pour de grands orchestres. Barber n'a pas composé sa sonate opus 26 pour Vladimir Horowitz. Mais le pianiste lui a demandé d'écrire un quatrième mouvement, une fugue, que Vladimir estime être ce qu'il y a de meilleur dans la sonate, évidemment. Il la joue à Carnegie Hall le 23 janvier 50 et explique pourquoi il aime Barber. Il y a mis une flamme et un cœur qui font généralement défaut aux compositeurs ultra-modernes avec leur pyrotechnique mécanique. Si par exemple je ne joue pas Bartok, c'est parce que je n'aime pas cet emploi percussif qu'il fait du piano. Mais Barber est à la fois très brillant et très différent.
De votre père. Il faut que vous me considériez exactement comme tel. Appuyez-vous sur moi. Eh bien, voyons, vous allez me dire ce qui vous vient à l'esprit, une idée quelconque, si vague soit-elle, tout ce que vous voudrez. Allez-y, parlez-moi.
Je ne trouve rien.
Pas de rêve non plus?
Si.
Quel était ce rêve?
Oh, je ne crois pas à vos histoires de rêves. Ces théories de Freud sont idiotes.
Dès 1940, Horowitz a commencé un traitement psychanalytique avec le docteur Lawrence Kuby, un psychiatre spécialisé dans la guérison des homosexuels. Tennessee Williams a fait partie de ses patients. Cette thérapie est d'autant plus étonnante que le bon docteur Kuby rend des comptes à Vanda. Lowell Benedict était présent au début du traitement. Pendant sa psychanalyse, Vladimir restait simplement avec moi, complètement isolé de tous et complètement passif. Son médecin cherchait à changer en profondeur son orientation affective initiale. Sa façon de répondre à cela consistait à se retrancher du monde entier tout autant que de ses propres sentiments. La plupart du temps, je le voyais malheureux et déprimé. C'était un homme amer. Il y avait quelque chose de stoïque dans cette sorte de privation volontaire, dans des conditions pénibles. Et ce n'était pas en plus comme s'il avait eu des amis ou d'autres activités pour relâcher cette pression. Lorsqu'une journaliste questionne Vanda sur sa vie avec Toscanini et Horowitz, elle s'exclame « Ne me parlez pas d'eux. Mon père m'a rendue névrosée et mon mari m'a rendue folle. » Mais il ne faut pas trop caricaturer Vanda, même si son côté pitbull est à mourir de rire. Elle a filtré les appels téléphoniques, s'est battue pour que les tournées et les enregistrements se passent au mieux, pour que son mari soit toujours aux petits soins où qu'il soit. En fait, Vladimir n'écoute personne d'autre que Vanda. Bénédicte encore. Je pense que sans elle, il n'aurait pas pu survivre. Car elle ne se contentait pas de prendre ses problèmes profonds en patience. Quand il devenait hystérique vis-à-vis de l'organisation des concerts de la Columbia, au sujet d'un mauvais piano ou d'une mauvaise salle de concert ou d'une critique défavorable, il s'en prenait à elle. Il se mettait à hurler en disant qu'il refusait de continuer la tournée. Elle l'apaisait peu à peu, en général avec succès. Elle veillait parfaitement sur lui. Les tournées n'ont plus rien d'excitant pour Vanda et la cure psychanalytique n'a pas l'air d'être un grand succès. En automne 49, Vladimir quitte la maison et va s'installer à l'hôtel. Pour autant, Vanda n'a, en bonne italienne, jamais envisagé de divorcer. Vladimir a maintenant deux personnes à son service, un secrétaire et un valet de chambre, un certain Kenneth Lidom, apprenti comédien beau gosse qui a affirmé avoir été amant autant que factotum. Et pourtant, Vladimir a si besoin de Vanda qu'il lui demande de revenir à ses concerts. En 51, elle recommence à accompagner son mari lors de ses tournées. Quand tous deux rentrent à New York, il va à l'hôtel et elle rentre chez elle. Elle l'accompagne à Paris, ce qui doit l'amuser. Elle n'y est pas revenue depuis leur départ en 39.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Veuillez écouter l'événement musical de la quinzaine, une émission de Bernard Gavotti et Daniel Le Sûr.
Avant même que Horowitz ne parût sur la scène, j'ai observé dans la salle, dans les rangs du public, une réaction inhabituelle.
Quoi ? La foule se taisait ?
Ah non ! Elle attendait, presque religieusement, une manière de miracle. Si je suis à mon tour le fidèle interprète de ses sentiments, je crois bien que la foule se disait « Voilà 12 ans qu'on ne l'a pas entendu. Mon Dieu, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, pourvu qu'il ait conservé sa flamme et sa ferveur, pourvu qu'au sens le plus fâcheux du terme, il ne se soit pas, lui aussi, américanisé. »
À Paris comme ailleurs, Vladimir répond complaisamment aux éternelles questions que tous les journalistes lui posent.
Je joue seulement 35 ou 40 concerts par an. Je ne peux pas jouer en plus parce que je sens que je ne peux pas rester frais, jouer et étudier des œuvres modernes que j'ai présentées les derniers 8 ans. J'ai présenté 8 sonates nouvelles, et ça parce que je joue 35-40 concerts par an, ça me donne beaucoup de temps pour contemplation, pour penser, pour travailler et avoir enfin des temps libres.
I got
rhythm,
I got
music,
I got
my gal, who could ask for anything more?
Et c'est vrai, Vladimir, en 1951, ne fait plus que 35 concerts par an et affiche complet à chaque fois. Et s'il négocie pied à pied ses contrats, il refuse une offre de 10 000 dollars pour interpréter la bande sonore d'un film. « Je veux bien qu'on me paie, pas qu'on m'achète », dit-il. En février 1953, il donne un récital à New York pour le 25e anniversaire de ses débuts américains. L'événement, c'est qu'il ajoute enfin à son répertoire la sonate numéro 21 Deutsch 960 de Schubert. Il avait toujours dit « Elle est trop longue, trop introspective. On ne peut pas capter l'attention de 5000 personnes pendant 4 longs mouvements de Schubert. Ce serait un effort perdu. » Eh bien, il a changé d'avis. Et il la rôde à Boston, Chicago, Los Angeles. Il teste tous les tempi possibles. Vanda lui reproche d'avoir joué trop lentement. « Elle bougonne, j'ai cru que ça n'en finirait jamais. » Du coup, il pratique des coupes dans le 4e mouvement et joue à un tempo rapide. La critique en Californie est bonne. Voilà que ce nouveau défi l'a relevé et l'a gagné la partie. Son style était parfaitement schubertien, sans trace de sentiments russes dans son jeu. Alors qu'à New York, on parle d'un jeu perverti, éclipsé, d'erreurs de programmation. Jugez-en. Et tout de suite après, une nouvelle tournée commence. Vladimir en a assez. Il annule de plus en plus souvent les concerts. Un rhume, un mal de gorge et il refuse de jouer. Il a 50 ans et ne tient plus qu'à un fil. Il se souvient d'un concert comme d'un cauchemar. Mon Dieu, il y avait des gens assis sur toute la scène et je devais revenir jouer un bis, la polonaise en la bémol de Chopin, un grand crescendo. J'étais épuisée. Je sentais mon cœur prêt à éclater. J'avais l'estomac noué et j'avais l'impression qu'il allait remonter dans ma bouche. La tension était si incroyable que je sentais vraiment que je pouvais tomber raide mort à la fin du morceau. Quand j'ai plaqué le dernier accord, il y a eu les mêmes applaudissements que d'habitude, avec des gens qui martelaient le sol. Et j'ai entendu un homme dire à sa femme « Mon Dieu, est-ce que tu as jamais écouté quelque chose de pareil ?» Et elle a répondu « Ça, ce n'est rien. Attends d'avoir entendu ce qu'il va jouer ensuite. Il ne fait que commencer. » J'avais joué avec tout mon cœur. Et elle disait, « Ce n'est rien. Attends un peu. Il va en faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. » Non, je ne pouvais pas donner plus. Ça s'est passé en mars 1953 à Minneapolis. Et cette fois-ci, Il ne s'agit pas de ses habituels maux d'estomac ou autres vétilles. Vladimir Horowitz n'a vraiment pas pu monter sur scène. Non, Vladimir Horowitz ne peut plus donner une note de plus. Comme nous n'avons plus vraiment le temps d'écouter une œuvre entière, je vous propose de nous quitter avec la sonate de Schubert.
Thank you.
C'était Sous les doigts d'Horowitz, une émission d'Emmanuel Franc réalisée par Christine Amadou. Françoise Monteil m'a aidée à la préparer. La voix de Vladimir Horowitz était signée Laurent Lederer. Et l'intervieweur, c'était Antoine Baglin. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierrick Charles. Rendez-vous samedi prochain pour la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à rechercher toutes nos références musicales sur francemusique.fr. Bonne semaine à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.